A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Il y a même une époque où, je sais pas si vous vous souvenez, mais les fonds d'écran, c'était nous, quoi. Photo de moi.
Ah ouais?
Ah ouais.
Non, mais ça, je l'ai jamais fait et je trouve que c'est un red flag énorme. Une photo d'elle même.
Je suis d'accord.
En fond d'écran.
Non, mais je savais
vraiment,
pas qu'il y a des gens qui faisaient ça.
Mais quand
j'ai.
Mais c'était genre au collège, en fait.
Okay.
C'était une photo de moi, genre.
Yo. Enfin, non, j'ai pas encore reçu. Du coup, j'allais dire, non, mais je vais faire les kiffs. Mais en fait, je l'ai même pas reçu.
Mais on n'a même pas commencé cet épisode de LMK que Anthony, ça y est, tu pars déjà dans des digressions. Oui, parce que nous sommes dans LMK, le podcast du kiff et de la digression. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle. Et je suis toujours en excellente compagnie, comme chaque semaine. Je suis accompagnée de Fanny. Hello Fanny.
Hello, salut tout le monde.
C'est ton deuxième passage dans LMK.
Mais oui.
Et on est trop contents de t'avoir avec nous.
Bah, je suis très, très, très contente d'être avec vous et avec tous les gens qui écoutent LMK.
On est aussi avec Ariane. Hello,
yes,
Ariane.
Salut tout le monde. J'espère
Ariane,
que vous allez bien.
Toi, tu fais partie des murs de LMK.
Oui.
Ça y est, maintenant, on peut considérer que t'es un peu un fossile de LMK,
ouais,
quoi, en quelque
sûr.
Sorte.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Et puis un autre fossile de LMK, Anthony.
Je ne vois pas que vous parlez, je suis très jeune.
J'ai pas dit ça. Comment allez-vous, tous les trois?
Oh, ça va.
Vas-y Fanny, tu commences.
Oh, ça va plutôt bien. J'ai fait que 3 heures de métro aujourd'hui, mais sinon ça va.
Oh, ça va, chill.
Moyenne basse.
C'est ça.
Super.
Ok, Anthony, ça va toi?
Ça va bien. Je suis un peu saturée d'images de mode parce que c'est la Fashion Week en ce moment.
Ah, oui.
Et donc après New York, Londres, Milan, en ce moment c'est Paris qui termine mercredi. Et du coup j'ai un peu hâte que ça se termine afin de pouvoir digérer ce que j'ai vu.
T'es un peu en overdose ou pas?
Pas overdose, mais vraiment, j'ai besoin de décanter, quoi. Il me faut du temps pour assimiler ce que j'ai vu et me rendre compte de ce qui est beau et ce qui est moins.
Ok, intéressant. Bah, du coup, on te reposera la question...
La semaine prochaine.
Ouais, voilà. T'auras décanté en une semaine, tu penses?
J'espère, je crois que toi.
Ariane, comment ça va, toi?
Écoutez, ça va. Ça va comme quelqu'un qui a visité un appartement avec 40 autres personnes samedi, quoi. Donc, moi, je suis toujours en recherche d'appart. Mais ça va. Je sens que je suis en train de prendre un virage... de positivité, je me sens mieux, moins frustrée qu'avant.
Après la semaine dernière où t'avais eu du mal, c'est
voilà.
Ça?
Voilà. Là, je commence à en avoir plus rien à foutre et vraiment, je suis odieuse quand j'appelle les proprios. Bon, ça va peut-être me desservir, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais bon, voilà. Écoutez, ça va bien. Et toi,
bon,
Marie?
C'est le moment de repasser une annonce. Du coup, si
oui,
vous
voilà.
Êtes propriétaire ou que vous avez dans votre entourage, si vous quittez un appart, n'hésitez pas à contacter Ariane en DM. Voilà. Et puis, si vous avez des conseils aussi sur comment ne pas trop harceler les propriétaires ou péter des câbles parce qu'elle n'en peut plus.
Oui, vraiment, elle n'en peut plus.
N'hésitez pas.
Et toi?
Eh ben écoute, ça va. Moi, j'ai fait un mariage ce week-end à Lyon et du coup, là, je suis en ressenti jeudi. je suis vraiment éclatée de fatigue.
On est lundi, hein.
Voilà. Oui, c'est vrai. On enregistre ce podcast le lundi. Donc fatiguée, mais contente de vous retrouver et contente de retrouver aussi nos auditrices.
Mm-hmm.
Et by the way, on en profite pour vous dire qu'on a bien reçu les photos de vos bibliothèques.
Oui.
Et peut-être que d'ailleurs,
Ariane,
en plus, t'as fait une story.
Oui.
Donc peut-être que vous êtes dans cette story. Moi, je remarque juste que dans vos bibliothèques, personne ne classe les livres par couleur. Je suis un peu déçue.
Mais les gens sensés ne font pas ça, Marie-Stéphanie.
Alors,
désolée
écoute,
de te dire.
Il y a une tentative de classement par couleur. Si tu regardes bien, oui. Il y en a une. Il y a un simili classement par couleur.
Eh ben, tu vois, j'ai pas assez bien regardé. Donc,
non, mais
my
fault. Ça va, c'est light. Par exemple, Fanny m'a envoyé un réel ce matin sur Insta, ou je sais plus, hier. Non, là, c'était catastrophique. C'était vraiment Pride flag, quoi.
Mais c'était juste pour faire la photo à la fin, en fait. C'était vraiment pour ça.
Attendez, j'ai encore envie de changer de kiff. mais en parlant de bibliothèque, du coup, c'est pas un kiff, mais c'est un micro-kiff que je glisse comme ça, en passant l'air de rien. Est sortie la revue Lesbien Raisonnable. Je sais pas si vous connaissez ce compte Instagram. Génial,
c'est un podcast, non? Attends,
c'est un compte Instagram.
Je confonds avec Lesbienne au coin du feu.
Ah non, c'est un compte Instagram et un compte Twitter et newsletter. Génial. Et en fait, la créatrice a fait un financement participatif au début de l'année pour récolter des fonds afin de sortir un magazine papier. Et trop le bien. Magazine papier est sorti grâce à ce financement participatif. Et il est magnifique, c'est somptueux, c'est hilarant aussi, et c'est hyper intéressant. Et il y a notamment une photo d'Alice Coffin et sa copine, Yuri, dans leur appartement. Elles ont une bibliothèque Rainbow Flag.
Wow, on adore.
Je crois qu'il est dans mon sac, j'aimerais bien aller chercher, mais peut-être à un autre moment.
Okay. Et mais là, coup, c'est voilà, validé, c'est... du coup. Là, il y a un vrai sens, bon, bah, okay. C'est totalement validé, c'est clair.
Oui, en plus, ça se poursuit sur le canapé, parce que la bibliothèque est derrière le canapé.
Wow, du coup, c'est génial.
Somptueux. C'est vraiment, bravo les lesbiennes.
J'ai trop envie de voir si tu veux aller le chercher après.
C'est sur le bureau.
Okay. Trop bien, hâte de voir.
Eh ben, trop cool. Bah, ok. Mini kiff d'Anthony, impromptu comme ça.
On, oui. On adore.
On adore.
Raisonnable.
On adore. Alors, pour commencer, pour introduire, même si on l'a déjà bien introduit ce podcast, j'ai une question à vous poser qui m'a été soufflée par Ariane. Brillante question et vraiment de la plus haute importance. cette question est la suivante. Quel fond d'écran êtes-vous?
C'est nul.
Attention,
mais,
tout fond d'écran.
Mais êtes-vous
fond d'écran d'ordinateur ou téléphone? Tout fond d'écran, c'est-à-dire?
Tout fond d'écran. Bah, est-ce que t'as une personnalité différente sur ton ordinateur et sur ton téléphone,
ah bah oui,
par exemple?
Oui.
Voilà, c'est intéressant de le savoir aussi.
Qui commence?
Allez, Ariane, bon, c'est d'accord. Toi qui as soufflé la question.
Bah, ça va aller très vite parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper basique. Je ne change pas mes fonds d'écran. Je veux dire, ça reste le fond d'écran, genre Apple, quoi. Désolé, j'ai que des trucs Apple, la honte.
Fais voir.
J'ai cru Apple, je fais quoi, mais c'est une appli de rencontre.
Ah oui, d'accord.
Fond d'écran.
On dirait un téléphone
vraiment,
qui vient d'être réinitialisé.
Voilà, exactement. Téléphone réinitialisé. Sur mon perso, c'est une couleur monochrome.
Ok.
Rose un peu pêche.
Tu changes en fonction de ton mood.
Mais non, pas du tout. Vraiment, je l'ai changé le jour où je l'ai eu et puis je l'ai jamais changé depuis. C'est une couleur, fond d'écran monochrome. Et sur mon ordi perso, là, je suis en train de sécher, je ne sais pas ce que c'est mon fond d'écran. Pendant très longtemps, j'ai eu une photo d'une poubelle, ce qui me représente bien.
Mais pourquoi ?
Mais je ne sais pas. Une photo d'une poubelle avec une boisson renversée dessus, je trouvais ça esthétique à l'époque. J'arrêtais pas de photographier des détritus. Enfin bref, c'était mon époque un peu, voilà, punk.
Très hâte d'en savoir plus sur cette partie de ta vie.
Non, j'étais juste jeune et folle. Ouais, pendant longtemps, j'ai eu cette photo de poubelle avec une sorte de boisson chocolat chaud renversée dessus, enfin voilà. Mais là, à l'heure actuelle, je crois vraiment que j'ai changé pour encore une fois quelque chose de monochrome parce que, en fait, quand mon ordi fait les mises à jour, ça change automatiquement le fond d'écran, ce qui est très chiant. Et ça le remet en fond d'écran basique, là.
Genre une montagne,
quoi. Juste des photos, voilà.
Ouais.
Photo de montagne. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, mon fond d'écran perso, c'est photo de montagne nulle, quoi.
Okay,
mais je trouve
okay.
que l'époque où on fait des trucs, des photos avec ses potes et qu'on les met en fond d'écran, machin, je sais pas, pour moi c'est passé.
Ouais.
Je le fais plus, quoi.
Tu le faisais ?
Ouais, je le faisais grave. Il y a même une époque où, je sais pas si vous vous souvenez, mais les fonds d'écran c'était nous, quoi. Photo de moi.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Non, mais ça j'ai jamais fait et je trouve que c'est un red flag énorme. une photo d'elle-même.
Je suis d'accord.
En fond d'écran.
Non, mais je savais
vraiment,
pas qu'il y a des gens qui faisaient ça.
Mais c'était genre au collège en fait.
Okay.
C'était une photo de moi, genre.
Yo.
Mais bon, écoutez,
c'est drôle.
Voilà,
non, mais attends,
14
attends.
Ans.
Ok, ici c'est une safe place. Tu peux dire les choses, ok. On te jugera pas, on te juge pas. Voilà. Très bien.
Sauf
Anthony qui vient de dire que tu étais une personne toxique.
Non, mais
clairement.
Franchement, j'étais une personne
non,
toxique
mais
au collège.
Si vous le faites, trouvez un bon psy ou une bonne psy.
Ouais,
je pense que ça peut servir.
Ouais, mais moi
no
ça va,
t'as arrêté.
Oui, j'ai arrêté depuis belle lurette.
Ouais. T'imagines voilà. Si on continuait à faire ça sur notre iPhone, par exemple, je sais
mais
pas.
Mais il y a
genre...
des gens qui font.
Non, mais des adultes
font
ça.
Ah oui, des adultes font ça.
C'est comme s'ils avaient oublié à ce à quoi ils ressemblaient.
Ou alors, ils ou elles s'aiment énormément.
Mais ouais,
c'est vraiment très narcissique.
Je suis d'accord, c'est très, très étrange.
D'accord. Ok, donc si je résume, Ariane, t'es plutôt tradi.
Ouais,
dans ton rapport au fond d'écran.
Exactement.
Et coloré également. On va dire ça comme ça. Ok, avec un passé quand même un petit peu. Voilà.
Punk.
C'est ça, poubelle / chocolat chaud reversé.
Exactement.
Cool, merci.
Je vous retrouverai la photo, ne vous inquiétez pas.
Mon fond d'écran d'ordinateur est aussi chaotique que ma bibliothèque, c'est-à-dire que c'est un fond d'écran d'Apple basique avec du bordel partout.
Oui, non, mais là,
je
c'est...
ne range rien, je supprime,
tout
une fois par mois, comme je supprime mes photos sur mon téléphone.
Tu
vraiment,
supprimes
je...
tout. Tu regardes quand même ce que tu supprimes ou
non,
pas.
Non, j'ai aucune attache, vraiment. Okay.
Et ça t'est jamais arrivé de te dire merde, j'ai supprimé un truc important.
Mais rien n'est important.
T'as sinon, aucune archive.
Non, c'est... Oh on en parle la semaine
dernière. Il y a trois
archivistes
qui sont effondrés là. Il y a des malaises partout en France.
Et vraiment, je ne conserve rien quoi. Les gens qui gardent leurs tickets de cinéma ou de pièces de théâtre et tout, je ne suis pas de ces gens-là. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends, mais ça ne me regarde pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne me
tu les juges quand même.
Tu vas ne me regarder pas.
C'est toxique. C'est des personnes toxiques. Red flag.
Non, non, c'est pas red flag, mais vraiment, j'ai pas la place, quoi. Enfin, ok. Je n'ai pas la place physiquement et même dans ma carte mémoire, je peux pas.
Et ça, est-ce que ça te crée un poids mental quand tu vois ton bureau là sur l'ordinateur rempli de
pas du tout
d'images
ça me
ou de
passe par-dessus la jambe.
Non, je t'envie tellement.
J'ai hâte de supprimer même. J'adore supprimer les choses. J'adore jeter. J'adore me débarrasser des choses. Parfois, je suis chez des amis, je suis là, je peux trier ton dressing et je jette tout. Pour le vendre sur Vinted, voyons.
D'accord.
Et sinon, mon fond d'écran de téléphone, bah, en fait, j'ai un iPhone aussi, du coup, on peut en mettre deux. Donc, il y en a un quand l'écran est verrouillé et l'autre quand il n'est pas verrouillé. Du coup, mon fond d'écran verrouillé, c'est mes neveux avec ma sœur et moi en arrière-plan qu'on ne voit pas trop.
Avec un petit chapeau sur la tête.
Oui, ils sont trop. C'était pour l'anniversaire de Timothée, qui est le plus petit, qui a un an. Qui est adorable.
Trop chou.
Et à côté, il y a Baptiste, son grand frère, qui a bientôt 5 ans et qui est tout aussi adorable. Et en arrière-plan, il y a ma sœur et moi. Mais on ne me voit à peine, car je ne suis pas un psychopathe narcissique.
Puis il y a quand même ses neveux dessus, donc ça
oui,
va,
la,
quoi.
Quand cette photo a plusieurs encore, c'est
un prétexte.
Oui.
Et en fond d'écran déverrouillé, c'est eux aussi, mais
oh
plus
non,
mais jeunes.
Oh là là.
Oh, trop mignon.
Ça fait un peu Vierge à l'enfant, parce que le grand frère porte son petit frère c'est de manière très Vierge à l'enfant. Et je trouve ça trop mimes. Et à chaque fois que je déverrouille mon téléphone, ça me recentre. Et je me dis, c'est ça qui compte.
Ça t'apaise. Trop bien. Voilà. Trop cool.
Toi, Fanny, c'est quoi ton fond d'écran?
Alors moi, c'est de la nature.
Ok.
Non, alors en fond d'écran de téléphone, c'est un truc qui est déjà dans le téléphone, mais que j'ai choisi, où c'est style un ciel étoilé. Ouais. Voilà, c'est très basique, hein, mais ça m'apaise beaucoup. Et en fond d'écran d'ordinateur, c'est une photo que j'ai prise en Bretagne de la mer.
Ah, c'est toi qui l'as prise.
C'est moi qui l'ai prise. C'est une photo vraiment avec le soleil au-dessus de la mer, mais la mer, elle est grise et le soleil vraiment. On dirait que la mer est d'argent, quoi. Mmh, et on voit un peu la plage avec plein de mousse comme ça, et j'aime beaucoup. Voilà,
très
ça.
Beau.
C'est en fait, oui, on dirait un peu une fausse photo.
C'est marrant.
J'en suis un peu fière. C'était pris juste avant le confinement de 2020.
C'est toi qui crée les fonds d'écran.
Je suis
de
démasquée. Je suis démasquée.
Tu travailles pour Shutterstock, Fanny.
Elle nous a bien caché des choses. Hein.
En tout cas, je constate qu'on a vraiment des fonds d'écran d'adultes. Hein. Enfin, il y a rien de, rien de drôle. Hein.
De drôle. Clair, hein. Bah, moi, vu que c'est mon ordi où je bosse, je me dis, mais imagine si je mets un truc un peu gênant.
C'est sûr.
J'avais un fond d'écran un peu problématique par le passé que je trouvais très drôle et puis j'ai mûri.
C'était quoi?
Quand c'était verrouillé, c'était Naomi Campbell qui déambulait dans les rues avec un sweatshirt avec écrit Naomi hits me. Hit me, pardon. Naomi m'a frappé. Et quand tu déverrouillais, c'était le verso de ce sweat qu'elle a vraiment porté. Hein. Et sur le verso, il y avait écrit And I loved it. Et je trouvais ça hilarant. Et après, je me disais, en fait, non, c'est glamouriser les violences physiques. Quoi,
vraiment,
donc, parce que Naomi Campbell, la supermodèle, a un sacré passé de violence sur des domestiques ou des gens qu'elle croise dans sa vie. Et elle a été à plusieurs reprises embêtée pour ça. Enfin, elle a même fait des travaux d'intérêt général à ce sujet-là. Donc, pour ces travaux d'intérêt général, d'ailleurs, elle venait en haute couture Dolce & Gabbana.
Oh là. Bon, j'avais vu ces photos-là, mais je ne sais pas pourquoi.
Moi, je trouvais ça très drôle à l'époque. Mais maintenant, je me dis, mon Dieu, mais quelle sale gosse, quoi. Enfin,
ouais.
Bref.
Oh là là. Chaud.
Et toi, Marie-Stéphanie?
Alors, moi, vous allez être choquée, pas par mon fond d'écran, mais par tout ce qu'il y a dans. Voilà.
Oh là là.
C'est sûr, je savais que j'allais provoquer cette réaction.
Anthony, lui, il n'est pas surpris, mais toi.
Moi, ça me laisse.
Mais rien.
Te laisse de marbre.
De marbre, je comprends.
Bah, j'ai vraiment,
mais
genre,
je comprends aussi, hein.
Mille docs, des captures d'écran, des. Et moi, ça m'angoisse, mais en fait, il faut dire que j'éteins vraiment jamais mon ordi. Enfin, si, je le redémarre, mais je l'éteins rarement. Et du coup, mes onglets, mes fenêtres sont toujours ouvertes. Et ça me cache ce que j'ai sur mon bureau. Donc,
oui.
Du coup, je vois pas le bordel. C'est un peu cacher le bordel, en vrai.
Pareil.
Mais moi, pour le coup, ça me pèse. Tu vois, là, je viens de voir ça, je suis pas bien.
Est-ce que tu ranges ta poubelle, tu vois? Ce que je me dis, c'est...
À les vider tous les jours.
Je veux dire dans la vraie vie.
Ah oui, moi, j'ai 4 poubelles chez moi.
Oh
non, mais tu fais le tri sélectif. Mais est-ce que tu tries l'intérieur de ta poubelle d'ordures ménagères, tu vois?
C'est-à-dire, comment tu veux que je trie l'intérieur de ma poubelle?
Justement, on ne peut pas. Et donc, mon ordinateur, je le traite un peu pareil. C'est, je me dis, bah, de toute façon, je jette ma poubelle toutes les semaines, donc je jette mon bureau toutes les semaines.
Mais c'est ton travail que tu jettes toutes les semaines?
Non, mon travail, il est sur mademoiselle.com.
Non, mais c'est intéressant.
Tu peux pas jeter ce qui est vraiment important, genre tes notes et tout. C'est dans ton appli notes, donc tu peux pas le jeter par mégarde, a priori.
Je prends pas trop de notes, mais comme on en parlait la semaine dernière, les carnets, je les jette aussi, tu vois, sans me retourner.
Ça,
n'est
pas ensemble, mais...
c'est intéressant. Tout ça pour dire que mon fond d'écran Mac, c'est clairement le fond d'écran Mac basique. à savoir des espèces de vagues de couleurs violettes, roses. Voilà, c'est pas très original, mais parce qu'en même temps, bah, je le vois pas, donc pas grand besoin de le personnaliser. J'ai eu une période aussi plus jeune sur mon ordi perso où je pense que je mettais, je sais pas, mes copines ou mon mec et moi, ou voilà. J'ai pas eu de période où je me mettais solo.
Aïe, aïe, aïe.
Et sur mon téléphone, c'est très simple. C'est une photo de ma famille, à savoir mon mari et ma fille. Et on est très sapés parce que c'était un mariage. On s'habille pas comme ça tous les jours. Je suis, quand même.
Je suis un peu déçue.
Mais non, voilà. Mais ce jaune te va très bien.
Merci, c'est gentil. Et je crois que j'ai pas de fond d'écran déverrouillé. Non, c'est le même. C'est exactement le même. Et comme toi, Anthony, moi, j'aime bien regarder ce fond d'écran. Le voir au milieu de la journée parce que c'est trop cool de voir leur tête et je me dis que je vais les retrouver le soir et je suis trop contente.
Je trouve que ça compense le stress que provoquent les notifications.
Ouais, c'est vrai. Ravie d'en savoir plus sur vos personnalités, en tout cas. Avez-vous des commentaires ?
Oui, pour ma part. Je vous rappelle que la semaine dernière, petit contexte, je parlais du fait que je m'étais fait usurper mon identité.
Certes.
Et je disais notamment, franchement, si je peux aider une seule personne, my job is done. Et j'ai reçu ce message, j'étais ravie, de Yaya CDLN qui me dit « Salut Ariane, je viens d'écouter le dernier LMK où tu racontes ta mésaventure d'usurpation d'identité. Ça m'est arrivé il y a quelques années quand je cherchais du travail et que mon CV était publié sur le site de Pôle emploi. J'ai reçu un mail pour une offre où on me demandait de fournir ma carte d'identité, etc. J'étais naïve et désespérée, donc je l'ai fait. Sauf qu'après ça, impossible de recontacter la personne. Je suis donc allée à la gendarmerie pour demander ce que je pouvais faire et on m'a gentiment répondu « Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en foutent de votre carte d'identité ?» Très mauvaise réponse. Tout en me faisant comprendre que j'étais bien conne d'être tombée aussi facilement dans le panneau. C'était grave ma hantise quand je suis allée au commissariat. Bref, grâce à toi, je sais maintenant que je dois vérifier sur la Banque de France et je vais le faire immédiatement. Des bisous.
Oh, mais c'est super!
Vraiment, je suis trop contente. Donc, j'espère que tu ne vas rien trouver quand ils vont t'envoyer le rapport sur les prêts et les comptes qui auraient été ouverts en ton nom. En tout cas, très mauvais flic, parce que bien sûr qu'on peut t'usurper ton identité juste avec une copie de carte d'identité. Après, je sais pas quand est-ce que s'est déroulée cette histoire, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ultra répandu et. Pour le coup, le policier qui a pris ma plainte, je veux dire, il savait déjà de quoi il s'agissait et il n'était pas du tout étonné. Heureusement, il ne m'a pas dit « Vous êtes bien conne, madame ». C'est un peu ce que je craignais parce que je me suis dit « Putain, en plus, je suis jeune et tout. » Le mec, il doit se dire « Qu'est-ce que c'est que cette bouffonne qui n'a pas fait attention ?» Bref, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le mec était... Bon, je le dis à demi-mot, mais il était très gentil. Je suis très contente d'avoir reçu ce message et j'espère que tu trouveras rien comme activité suspecte sur tes comptes et prêts. Voilà, merci pour ce commentaire.
Trop bien, comme quoi ça a été vraiment utile.
Ouais.
De mon côté, il y a un commentaire long comme le bras qui m'a beaucoup étonnée et j'aimerais lancer un appel au LMK pour m'aider si cette personne dit la vérité. Peut-être que c'est moi qui ai un Alzheimer précoce. Je cite. Hello Anthony, je viens t'embêter, je m'explique. Il y a un moment, il y a plein d'épisodes de l'MK, tu as parlé d'une histoire d'un couple gay qui s'était paxé et qui, quand l'un des hommes était décédé, son compagnon avait rien pu garder de son compagnon car le pax ne lui permettait pas de le faire et que sa belle-mère refusait de lui donner une partie de l'héritage, et plus particulièrement une lampe. Je ne retrouve plus l'épisode, j'espérais que tu pourrais me donner le nom de l'affaire, je ne sais pas comment le formuler autrement, j'ai effectué plein de recherches en ligne, Google, mademoiselle, j'ai même demandé à ChatGPT. Cette année, je passe mon diplôme d'art et je voudrais en faire une pièce pour ma restitution de diplômabilité. Donc après, le commentaire parle d'autre chose, d'un livre que j'ai co-écrit, bref. Vous le savez si vous écoutez LMK, et juste, cette personne m'a écrit ça, et vraiment, je n'ai aucune espèce de mémoire, de souvenir de cette histoire. Enfin, je pense pas avoir raconté ça.
Moi, je crois que ça me dit quelque chose.
Une lampe.
Je suis un pilier d'LMK, mais en vrai, c'est faux. Ça te dit rien, cette histoire? Moi, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que t'as déjà raconté ça.
Je sais pas. Vraiment, ça me dit rien.
Moi, ça me parle.
Mais est-ce
pas
que
trop.
C'était une histoire vraie ou est-ce que c'est quelque chose que tu nous as raconté de quelque chose que tu avais lu ou vu?
Franchement, ça me dit rien du tout. Il y a une histoire que je raconte parfois, c'est à quel point lire à l'ami qui m'a pas sauvé la vie de Hervé Guibert ou Michel Foucault, qui a un pseudonyme dans le livre de Hervé Guibert, c'est un roman à clé. Hervé Guibert était vraiment ami avec Michel Foucault dans la vraie vie, et Michel Foucault a été hospitalisé vers la fin de sa vie parce qu'il était atteint du VIH-Sida, et en gros, il est rapidement décédé, et son compagnon, Michel Defer, avait beaucoup de difficultés pour rentrer dans la chambre, parce qu'en fait, il s'était pas marié, en fait, et il y a que la famille qui a le droit d'entrer dans la chambre. À l'époque, en tout cas, pour les couples gays, c'était extrêmement compliqué. Et donc, ça posait des questions pour accéder à la chambre, mais aussi pour les questions d'héritage. Ça, ça m'arrive d'en parler, mais ça m'étonnerait d'en avoir parlé dans l'MK. Et il n'y a pas d'histoire de lampe, donc je comprends pas. Mais
est-ce que c'est pas un mix entre deux histoires que tu as pu raconter? Ah, enfin, je remets aucunement en cause le message qui t'a été envoyé dit, mais peut-être que
oui, peut-être qu'il y a
c'est
un mix.
Mélange entre deux histoires.
Peut-être qu'il y a un mix. C'est pour ça que s'il y a des LMK à qui ça évoque quelque chose, vous pouvez nous envoyer l'épisode, ça serait super utile. Mais je pense que c'est peut-être pas moi qui l'ai raconté, peut-être que c'est Mathis ou quelqu'un d'autre, tu vois.
Ah, peut-être.
Ou Cédric, j'en sais rien. Mais bon,
peut-être, voilà. Effectivement.
Voilà, c'était la petite parenthèse archéologie de LMK. Évidemment, comme je ne retiens rien, je jette tout, bah, je ne m'en rappelle pas. Voilà, c'est tout pour moi.
Ok, Fanny, tu viens de débarquer, c'est normal.
Sur l'échelle Marie-Stéphanie, je pense que dans 3-4 mois, j'en aurai.
Mais, parce qu'effectivement, je disais à Fanny, hors micro, en off, comme on dit, que j'avais mis un petit bout de temps avant de recevoir des messages. Donc,
c'est normal. Alors moi, je dis, sur Instagram, j'ai pas de compte à moi, j'ai que le compte de Passion Médiéviste. Donc, si voilà, des gens me cherchaient, vous voulez absolument...
sur Twitter.
Ou sur Twitter, ou voilà, sur Instagram, Passion Médiéviste, je verrai, vous dites, ah bah, auditeur de LMK, auditrice de LMK, je saurai, voilà. Mais okay. J'ai la flemme de faire un compte Insta à moi, vraiment la flemme.
Ah ouais?
Ah mais, ah oh oui, ça me prendrait trop de temps, ouais, ça me prendrait trop de temps. Déjà, ouais. Je suis concentrée sur celui de mon podcast, ça me prend déjà
c'est
pas mal
taf,
de temps.
C'est du taf, d'avoir un compte Insta, c'est vrai.
Bah oui, et toi Marie-Stéphanie?
Eh bien écoute, j'ai reçu un message de, donc sur Instagram, une personne qui s'appelle curiosities.vanities, qui me dit, hello. J'ai commencé The Fall, donc la série, le thriller psychologique que j'ai recommandé il y a...
La semaine dernière.
Bah, la semaine dernière, ouais, voilà. Dernière. Et donc, elle me dit, ça m'a donné envie, notamment quand tu as dit que c'était une série lente. En effet, je confirme. je regardais Please Like Me, série australienne feel good que je conseille. Je connais pas.
Moi non plus, ouais, je suis nulle en série, coup, je dis aucune ref.
Je vais aller regarder, parce que série feel good, bah oui, en fait, pour une fois, ça fait du bien. Mais qui va très vite avec beaucoup d'action et de dialogue, et étant un peu malade avec le cerveau au ralenti, une série lente, en plus avec des meurtres, comme ça, ça me rappelle que ma vie est pas si horrible, c'est nickel. Alors écoute, déjà j'espère que ça va mieux et que t'es moins malade, et effectivement, après avoir regardé cette série, je pense que tu ne pourras que te dire que ta vie est incroyable, à côté de ce qui se dit dans la série. La commencer un dimanche en mangeant des cookies et avec un lait chaud au miel, la meilleure vie,
oh,
avec des petits emojis, vieille dame, cookies et, et un petit emoji parfait. Bon, j'aimerais bien quand même plus être malade. Et sinon, cool, ta dernière reco-livre, ça m'a donné envie. Est-ce que tu as un Goodreads pour suivre tes lectures? Alors, merci Curiosities Vanities pour ton message. Déjà, effectivement, j'espère que tu vas mieux. J'espère que tu continues The Fall et que ça te plaît. N'hésite pas à me le dire. Est-ce que tu as laissé tomber au milieu en disant que c'était vraiment trop de la merde ou alors que c'était quand même une bonne reco? En tout cas, meilleur programme du dimanche, cookies, lait chaud miel, mais c'est le genre de choses que j'adore.
Oh ouais.
Vraiment par-dessus tout. Ma passion, l'automne et l'hiver. Et Goodreads, pour être tout à fait honnête, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est un... Évidemment.
D'ailleurs, okay, je crois que LMK a un Goodreads.
Ah ouais,
c'est oui, je crois que c'est une LMK ou un LMK qu'il avait créé justement pour référencer tous les livres qu'on citait dans
LMK. Mais incroyable.
Oui,
mais il faut qu'on retrouve ce Goodreads alors et qu'on... Parce que non, pour te répondre du coup, Curiosities Vanity, je n'en ai pas de Goodreads.
Tu peux dire ce que c'est Goodreads, peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est.
Alors en fait, c'est un... C'est un réseau, est-ce qu'on peut appeler ça un réseau social? Oui.
Non,
c'est une plateforme qui permet donc à des lecteurs et des lectrices de lister, de noter et d'ajouter des petites critiques sur les livres qu'ils et elles ont lus récemment ou aussi les livres qu'ils et elles envisagent de lire.
Okay.
Donc ça a l'air vraiment chouette. J'avoue que je partage beaucoup plus mes recos livres sur Instagram, même si ça commence un petit peu à me saouler parce que Instagram globalement commence à me saouler aussi parce que il y a trop de choses, trop de contenu, trop de voilà et puis tout se perd un peu dans en général moi je publie mes recos bouquins en post Insta. Mais ça m'arrive aussi de publier en story. Et en fait, les stories, si tu oublies de les mettre à la une, ça disparaît et c'est
non,
nul.
Non, tu peux les rajouter à posteriori.
Oui, tu peux les rajouter à posteriori, mais enfin, c'est, je sais pas, je trouve que c'est trop éparpillé du coup. C'est pas. Moi, j'aime bien quand c'est pas pollué par tout le reste, en fait. Et je trouve que Instagram, pour le coup, c'est pollué par tout le reste.
Ou alors tu refais donc, un Tumblr.
Bah, en fait, pour tout te dire, j'avais en tête de lancer une newsletter.
Ah.
De reco littéraire. Parce que je lis beaucoup et en fait ça se perd. Enfin, même pour moi, j'aimerais bien avoir un peu une archive, une sorte d'archive.
Un site internet avec un blog, mais ou alors un site où tu aurais une chronique. Je sais pas, peut-être. Est-ce que tu connais un site où tu pourrais écrire?
Voilà. Non mais j'ai pas encore trouvé la vraie bonne idée. Bah, je parle, hein, enfin de mes coups de cœur littéraires sur Mad et en général, j'essaie d'aller interviewer aussi les autrices des bouquins concernés. Donc voilà, donc je n'ai pas de Goodreads, mais peut-être qu'un jour viendra autre chose, je ne sais pas quoi, qui serait peut-être complémentaire du reste. Voilà, en tout cas, merci pour ton message et puis bonne poursuite de The Fall.
Ouais.
Sans transition, Anthony, quel est ton kiff cette semaine ?
Alors, mon kiff, on parlait de livre, on parlait de coup de cœur, c'est un livre. Mais attends, avant ça, je voudrais faire encore une mini précision par rapport au dernier épisode. Vous m'avez tellement interrogé sur les bibliothèques, du coup, on a acheté.
Mais
je vais
cool.
les recevoir la semaine prochaine.
C'est ça que t'as acheté sur l'Ardouze?
Ouais.
Purée.
Une petite fortune.
Mais
achetez de seconde main
teasing.
Si vous pouvez, si, s'il vous plaît. Comment?
On peut avoir un teasing à quoi
elle
va
ressembler? En fait, je suis même pas sûre qu'elle soit stylée, mais attendez, je vais essayer.
Elle
de
le sera
ça.
Après.
Oui.
C'est vraiment une skinny legend. Hein. C'est
skinny
très...
legend!
Une quoi?
C'est une bibliothèque très très mince, vraiment elle fait 2 mètres.
Par rapport à la Billy, en fait, on se sait ce qui est ouf.
Bah justement, j'avais hésité à prendre des Billy de base et je me suis dit non, mais en fait, les Billy, j'ai peur qu'il y ait trop de blanc, que ça prenne trop de place et que ça bouffe mes livres.
C'est très joli.
Je voulais que la bibliothèque disparaisse et du coup, j'ai pris une bibliothèque qui est tout en fer, c'est en acier noir, très très mince, il y a très très peu de matière en fait. Et du coup, mais je sais pas si ça va supporter beaucoup de poids. C'est ça qui m'interroge.
Ouais, c'est fait pour, je pense.
Bah, si tu la renforces bien en bas, si en bas elle est bien.
Et tu l'accroches sur le mur, tu l'accroches contre le mur pour pas qu'elle tombe. En plus, si t'as tes neveux qui viennent chez toi aussi, c'est bien de faire ça.
C'est vendu sans attache murale, boule la redoute. Slidez dans mes DM si vous voulez que.
Je viens de voir le prix.
Dites-vous qu'il y en a acheté 3.
Ah oui, d'accord.
Oh, wow.
Et pas que ça. Bref, c'était la folie. Mais. Pour une fois dans ma vie, j'ai fait un paiement en 4 fois sans frais. Donc, j'ai très peur, mais c'est une autre histoire.
Mais non.
Voilà, c'était la parenthèse. J'ai acheté une bibliothèque pour devenir un adulte.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, rassurer Anthony dans ses DM en lui disant que c'est pas grave d'avoir fait un paiement en 4 fois sans frais?
J'en ai fait plein, moi.
En fait, j'ai grandi en ayant comme conseil d'éducation par rapport à l'argent de la part de ma mère qu'il fallait avoir économisé 4 fois le prix d'une chose avant de l'acheter.
Oh.
Et du coup, si tu vas acheter...
Ça marche pas avec tout, par contre.
Non.
Bah, la maison, par exemple.
Non, hormis les maisons et les appartements. Mais si vous voulez acheter, par exemple, une paire de bottines à 1000 euros, il faut avoir économisé 4000 euros avant de l'acheter.
Waouh. Okay.
Ceci n'est pas du tout un exemple tiré de ma vraie vie.
T'as acheté une paire de bottines à 1000 euros?
Et donc, mon coup de cœur, c'est un livre qui s'appelle « Ce que je sais de toi » de Éric Yacour. C'est un primo-romancier. Il est né à Montréal de parents égyptiens et il vit entre la France et le Québec aujourd'hui. Et en fait, il n'a pas du tout une formation littéraire. Il est diplômé en économie appliquée et en relations internationales. Enfin, c'est vraiment écrit sur la biographie qui est en 3e de couverture. Et du coup, moi, je ne lis jamais la 4e de couve avant de prendre un livre et de le lire. J'adore me laisser surprendre par des bouquins. Et en l'occurrence, j'avais choisi cet ouvrage notamment parce que la couverture, c'est un artiste que j'aime beaucoup, un artiste iranien qui s'appelle Alireza Shojaian, qui est un peintre queer qui est réfugié en France à cause de ce qui se passe en Iran et qui oppresse notamment les personnes LGBT+, ainsi que les femmes, évidemment. Et bref, c'est une autre histoire. Et donc, je trouvais la couverture sublime et je me suis dit, ok, j'ai trop envie de le lire. Donc, c'est un livre qui se passe... dans l'Égypte des années 80, et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Tarek, qui devient médecin comme son père, dans une famille relativement bourgeoise, où tout est assez carré. Il y a une petite sœur qui s'appelle Nesrine, avec qui il s'entend très bien. Et un jour, il rencontre une femme qu'il trouve charmante, et qui est un peu survoltée et tout, et elle le sort un peu de sa zone de confort où tout est carré. Et lui, qui se laissait un peu porter par la vie, commence à ouvrir une clinique. En plus de la clinique qu'il occupe, enfin attendez, je raconte ça trop mal, mais en gros, son père décède assez tôt dans le livre, et parce que c'est la suite naturelle des choses, hein, les gens meurent un jour, et il récupère la clinique de son père et toute la patientèle qui va avec, et dans ce quartier relativement bourgeois. Et à côté de ça, il décide d'ouvrir une clinique pour un quartier défavorisé, où plein de personnes pauvres viennent le voir, et où il fait les choses de manière, il les soigne de manière gratuite ou presque, et ça l'occupe en fait énormément. Donc il voit un peu moins son épouse par rapport à ça. Et un jour, quelqu'un vient toquer à sa porte, un jeune homme qui s'appelle Ali, qui lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir soigner ma mère? Elle est archi malade. Voici une énorme liasse de billets, quoi. » Et donc Tarek le suit, et il voit sa mère, effectivement, qui est malade. Sur le coup, elle n'a pas l'air très très malade, mais en fait, elle fait des espèces de crises par moment, et il comprend sa maladie, mais ce n'est pas spécifié. On ne sait pas ce que c'est comme maladie. Et donc ça crée une espèce de suspense, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on nous... En fait le narrateur, c'est très étrange, je vous ai pas dit le dispositif narratif. En fait, le narrateur, on sait pas qui c'est, mais le narrateur dit tu fais ci, tu fais ça à propos de Tarek. Donc Tarek, on sait qui est Tarek à travers les yeux de ce narrateur-là, qui a l'air omniscient, mais qui est subjectif. Enfin, qui est une personne avec un point de vue subjectif qui dit tu à propos de Tarek, et qui parle de Ali en disant il fait ci, il fait ça. Et donc, en fait, c'est comme si on nous rapportait l'histoire de Tarek. Mais on ne sait pas qui nous rapporte l'histoire de Tarek. Et c'est ultra, ultra, ultra... Enfin, je sais pas, c'est plein de suspense. J'étais à fond, je me disais, mais qui parle pendant tout le livre?
C'est vraiment tout le livre, en plus.
C'est vraiment quasi tout le livre, ouais. C'est vraiment les trois derniers chapitres où on sait qui c'est. Et c'est incroyable. Et vraiment, waouh.
Ne nous dis pas, attention.
Ne nous dis pas, il se passe plein de trucs. J'ai envie de vous raconter plein de trucs, mais on va encore me dire que je divulgage tout. Donc, je ne dirai rien de plus. Mais c'est très, très bien écrit. En plus, c'est une langue qui est... Enfin, je sais pas comment dire, c'est un usage de la langue qui est assez particulier parce que non seulement ça se passe en Égypte, mais en plus c'est un auteur canadien qui écrit du coup. Et du coup, il a un usage du français qui est différent d'une autre et qui est beaucoup plus fleuri. Surtout qu'il y a plein de références à la culture égyptienne et notamment la cuisine égyptienne. Du coup, j'avais trop faim pendant tout le livre. C'était trop bien, j'ai trop adoré. Et surtout, c'est l'Égypte des années 80. Alors, c'est assez nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, parce que je n'étais pas née, évidemment, et que je ne connais pas l'Égypte, je n'y suis jamais allée. Donc, j'avais un peu l'impression de visiter à travers les protagonistes. Et aussi, ça en dit long sur l'évolution politique du pays, parce que ça se passe sur une vingtaine d'années, entre le début du livre qui débute dans les années 80 et qui se termine justement en 2001, un truc comme ça. Et voilà, c'est vraiment très très bien écrit, c'est très dépaysant, c'est assez lyrique, les protagonistes sont bien développés d'un point de vue psychologique, l'histoire est assez pleine de suspense en réalité, c'est très romantique aussi, mais c'est aussi assez tragique. Et,
voilà, mais wow, c'est fou, il y a tous les ingrédients quoi.
Si je voulais vous donner des références littéraires pour vous dire à quoi ça peut ressembler. C'est un peu cliché de dire ça, mais... Enfin non, je vais pas le dire parce que ça éclaire trop le livre. Donc non, je vais rien dire de plus. Donc ça s'appelle « Ce que je sais de toi » de Éric Lacour et c'est publié aux éditions Philippe Ray. Et c'est vraiment somptueux. Je le recommande à mettre entre toutes les mains. Plutôt adulte, même s'il ne se passe rien de trash ou de trop triste. Mais je pense que si vous êtes ado, ça va peut-être moins vous parler. Je trouve que c'est beaucoup un roman sur... le deuil et sur devenir soi-même à l'épreuve de ses parents.
Mmh. Intéressant.
Ok.
Trop bien.
C'est super.
Tu l'as lu d'une traite. Parce que comme je disais, avant qu'on enregistre, toutes les pages sont cornées. Enfin, genre, il y a vraiment beaucoup de pages cornées. Donc, sent que tu l'as aimé, quoi.
Je l'ai beaucoup aimé, mais non, je lis rarement les choses d'une traite parce que j'ai très peu de concentration. Mais il fait 300 pages et ça se lit assez rapidement parce que enfin, il y a du suspense, donc ça donne envie de tourner les pages assez vite, quoi.
Trop bien.
Trop bien, ça donne vraiment grave envie.
Mais à chaque fois que vous présentez des livres, ça me donne envie de les lire. Puis après, je me souviens que je ne lis pas dans ma vie. Donc, vraie question, vous lisez quand dans la journée?
Je prends le RER tous les jours. Donc
ah ouais, putain, les transports,
20 minutes aller, 20 minutes retour
à
peu
j'allais
près.
J'allais dire la même chose. En fait, les transports en commun à Paris, vu que tu mets quand même pas mal de temps. Moi, j'ai 30 minutes le matin, 30
c'est
minutes
trop
le
bien.
Soir.
Enfin, trop bien,
rien,
non, c'est pas trop bien. Mais...
Même toi, en 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, c'est pas mal de pages ouais. Que tu peux engloutir, quoi.
Ouais. À la seconde où j'ouvre un livre le soir avant de me coucher, je m'endors.
Oui, je comprends. Moi, j'arrive pas. Enfin, en plus, j'ai le cerveau. J'ai juste envie de dormir. Donc,
moi, chez moi, j'arrive pas non plus parce que j'ai les séries et Animal Crossing.
Ouais,
donc,
voilà.
Effectivement, j'avais du métro aujourd'hui. Bah, j'ai lu le bouquin que j'ai commencé en juillet dernier. Un jour, je le finirai. Voilà.
Non, mais je suis bon.
Après, ouais. Le petit tips, c'est d'avoir vraiment toujours ton livre sur toi. Parce que, en fait,
t'inquiète pas, c'est le cas.
mais dans une journée, t'as plein de moments où tu attends. Ouais, ouais. Et quand tu t'en rends compte et que tu dis je vais utiliser ces moments pour lire, bah, en fait tu t'as beaucoup plus de temps quoi.
Et en plus dis-toi que comme ça tu vas économiser la batterie de ton téléphone en n'étant pas sur ton téléphone mais sur ton livre.
C'est vrai. Mais ouais.
Et il y a bon après je faisais ça quand j'avais une période où je dormais suffisamment dans ma vie, mais j'ai besoin d'une heure pour me préparer le matin. Il y a une période où j'avais deux heures. Et du coup le matin quand tu sors des vapes, je trouve que c'est le meilleur moment.
Moi je suis d'accord.
Encore
dans
ton lit, tu vas pas te rendormir. Et ça te permet de te réveiller en douceur.
Je suis grave d'accord.
Puis c'est une super façon de commencer la journée.
Ouais, ouais, c'est magnifique.
T'as le cerveau reposé, en théorie, frais et tout. Je suis d'accord que c'est le meilleur moment. Moi, ma meilleure pote, elle fait un truc de fou. Elle est prête une heure et demie avant l'heure à laquelle elle commence le taf. Et elle va tous les jours prendre un café dans le café en bas de chez elle et lire tous les jours.
C'est tellement génial.
Ah ben, j'ai pas le même budget.
Ouais, après, il y a un budget parce que clairement, elle prend, elle fait clairement son petit déj là-bas tous les jours. Mais
c'est trop bien.
C'est trop bien.
En
et
fait,
c'est comme ça qu'elle lit.
Avant de commencer la journée, quoi.
Bah, justement, je me fais 1,5 litre de thé tous les matins. Je suis un peu potomane. Wow. Et je bois comme ça pendant une heure en lisant. Et j'adore.
Bah, je comprends. C'est vraiment... J'adore le matin, mais malheureusement, le matin ne m'adore pas visiblement. Parce que j'arrive vraiment pas à me réveiller. Donc,
En revanche, je vais devoir vous laisser pour aller tourner un micro-trottoir pour les fashion.
Voilà. Anthony, bon tournage. Et
merci. Ce sera à voir sur mademoiselle.com, sur TikTok, Instagram. Abonnez-vous.
Salut.
Magnifique. Salut Anthony.
Salut Anthony.
Ciao.
Fanny, quel est ton kiff cette semaine?
Alors, cette semaine, je n'ai pas un, mais trois kiffs.
Oh, waouh!
Oui, bah, je me suis dit, je continue de vous parler des sujets très importants pour me présenter un petit peu aux auditeurs. Voilà, je veux.
Tu veux épater les LMK en fait?
Je veux pas les épater, je veux qu'ils m'apprécient.
Comme je suis!
Voilà, je vous présente qui je suis. Eh bien, je vais vous parler d'une de mes autres passions dans la vie, parce que la semaine dernière, c'était le bullet journal, et là, c'est les podcasts, la vie.
Tadam.
Parce que oui, j'en fais et j'en écoute. Oui, parce qu'il y a des gens qui font du podcast mais qui n'en écoutent pas. Et bien moi, quand je ne monte pas les miens, j'écoute ceux des autres. J'écoute FIP aussi parfois, mais bref. Donc, je voulais cette semaine vous conseiller trois podcasts, mais vraiment en mode reco. Et j'essaie de prendre des choses effectivement qui sont pas trop connues. Je vais pas vous conseiller genre les pieds sur terre ou deux heures de perdu. Voilà. Non, je vous conseille trois podcasts qui sont faits par des femmes en plus. Donc,
trop bien.
Mieux. Slay. Alors, je vais commencer par c'est quasiment du plus connu au moins connu. Et pourtant, il y a eu un rebondissement la semaine dernière. Voilà. Alors, je vais commencer avec un podcast qui mettra peut-être certaines personnes mal à l'aise. Donc, je m'excuse d'avance, mais je vais faire vite, ne vous inquiétez pas. Ça parle de porno. Ça s'appelle le podcast Le N'importe Cul. Le N'importe Cul, c'est Jade et Mina qui... Alors, je lis leur bio Instagram parce que c'est très bien résumé. C'est un podcast qui décrypte la culture porn d'un œil féministe, sociétal et culturel.
Mais trop bien. Stylé.
Voilà. Et en fait, vraiment, ce que j'aime beaucoup... Alors, spoiler, conflit d'intérêts, j'ai participé à un épisode. Voilà, je le dis tout de suite, sur les fabliaux érotiques. Bref, voilà.
Fabliaux érotiques.
C'est quoi?
Eh ben, les fabliaux, c'est un genre littéraire du Moyen-Âge. Un peu comme le roman de Renard, un peu l'ancêtre des fables de La Fontaine avec une morale à la fin. Et ben t'en as qui sont érotiques, mais où vraiment il y a du vide dans du con, tu vois. On est vraiment sur ce genre de choses. Et voilà.
Mais incroyable.
J'ai pas étudié ça à l'école bizarrement.
Trop intéressant.
Souvent en plus c'est des histoires d'adultère ou de
évidemment
ou de prêtres qui sautent des bonnes femmes. Bref.
Oh là là, mais tellement envie d'aller écouter maintenant. Oh, c'est trop bizarre de dire ça après des prêtres qui sautent des bonnes femmes.
Eh bien voilà, tu peux écouter celui-là, mais voilà, donc là c'était vraiment un conflit d'intérêt déjà de déclarer, mais ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des sujets très divers, ouais, donc déjà les fables érotiques effectivement, mais donc à chaque épisode, soit elles font une analyse d'un film porno, d'un phénomène, d'une pratique, d'un tag, d'un acteur ou d'une actrice, et voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est au-delà des sujets, c'est que déjà du point de vue éditorial, c'est bien pensé, c'est pas juste du blabla, parce que bon... Il y a quelques années, il y avait des podcasts qui parlaient de porno où c'était vraiment de la discussion un peu de comptoir parfois, et j'avoue que j'appréciais pas trop. Là, c'est de la discussion, mais avec de l'argumentation, avec une analyse, et c'est pourtant sur un ton plutôt léger. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Jade et Mina, c'est vraiment comme un book club, mais avec du porno.
Trop bien.
Et donc, voilà, des sujets très divers. Elle commence la saison 4 du podcast, là, dans quelques jours. Et il y a 92 épisodes en tout, sachant qu'elles ont fait des épisodes un petit peu courts parce que l'été, elles font le n'importe clip. Si vous voulez commencer, c'est rigolo. Elles analysent des clips musicaux en voyant les références pornographiques derrière ces clips.
Ah ouais, ok.
Par exemple, style Anaconda de Nicki Minaj, en fait. Voilà, c'est des choses quand même aimées. Il y a un peu, genre, elles ont fait Cargo de nuit, il y a Axel Bauer, donc un peu moins évident. Donc, vraiment, je vous conseille le N'importe Q. En plus, encore conflit d'intérêt, mais c'est effectivement des copines. Mais c'est aussi que, vu leur sujet, eh bien, c'est difficile pour elles de se faire connaître, de faire des collaborations, vu que déjà sur Instagram, des fois, elles se font striker alors qu'elles ne montrent pas de porno et tout ça. Donc, j'essaye un peu de les aider parce que vraiment, c'est super ce qu'elles font.
T'as bien raison. Et franchement, j'ai envie de les inviter dans LMK pour qu'elles viennent.
Ah, mais il faut, hein. Elles sont
nous
super.
Parler
elles sont
de
trop cool.
Ce serait trop bien.
Ah, mais je pense que ça leur ferait très plaisir. Donc, c'est Jade et Mina et le podcast N'importe Q. Deuxième reco. Je parlais d'un podcast alors qui est un peu arrêté, mais en même temps, il est toujours en ligne, toujours disponible. Donc, vous pouvez l'écouter. C'est un podcast qui s'appelle Rebelle Rebelle, au féminin et au pluriel. Et donc, Rebelle Rebelle, ça a été produit par Lucie Barat, qui est une journaliste écrivaine et qui vit plein de choses, je crois. C'était sur Radio Campus Lille. D'ailleurs, elle a écrit aussi un livre sur Janis Joplin. Et donc, Rebelle Rebelle, c'est un podcast qui va faire découvrir les musiciennes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Donc, c'est 35 épisodes de 1 heure qui peuvent s'écouter de façon tout à fait indépendante.
D'affilée.
Et voilà. Mais moi, j'adore. Et elle est trop bien, Lucie Barat. Quand j'écoute ces épisodes, j'en suis à ma troisième réécoute de ces podcasts.
Ah oui. Wow, ok.
Parce que déjà, elle parle de tellement de choses. À chaque fois, en gros, elle prend un genre musical et elle va donner des exemples de musiciennes, de femmes artistes qui ont contribué à ce genre en passant les chansons en entier. Donc à chaque fois, elle parle entre les chansons, en racontant la vie de la personne, du style, en racontant, voilà, je sais pas, moi, la country à Nashville, dans les années je sais plus quoi.
Génial.
Et dites-vous que, alors, à part si vous y connaissez en musique bientôt, bien sûr, mais moi, je connais quasiment rien de tout ce qu'elle raconte. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je réécoute, parce que je les ai oubliés,
ouais,
en fait,
sûr.
À chaque fois. Et c'est vraiment tous les genres musicaux. Elle a fait le rap, le rock, la country, le folk pop, tout. Et Lucie Barat a un ton, mais tellement sympa. T'as l'impression que c'est une copine qui te dit « Attends, si tu veux, j'ai écouté un truc récemment, viens, je te fais écouter. » Elle a un ton vraiment presque gourmand et j'adore l'écouter. Et je sais que voilà, elle a arrêté malheureusement, mais c'était trop bien. Et des fois, elle faisait des épisodes où elle recevait des gens qui parlaient de leurs coups de cœur musicaux ou qui faisaient une petite sélection des artistes ou des gens qui travaillent dans le monde de la musique. Et elle est très bonne intervieweuse en plus, donc vraiment, je ne peux que vous recommander donc, le podcast Rebelle Rebelle. Et pour finir, parce que oui, en fait aussi, j'ai oublié de le dire au début, je suis très difficile en podcast que j'écoute. C'est compliqué pour moi de trouver un nouveau podcast où je me dis « Ah, tiens !» Donc là, c'est un peu un appel aux auditeurs auditrices de LMK. Si vous avez un peu des podcasts pépites, où vraiment vous dites ouais. « Ah ouais, ça, c'est, enfin, ça vaut le coup d'être connu, sachant que je suis très exigeante sur la qualité sonore. » Moi, il faut vraiment que ce soit bien enregistré, okay. Parce que même si le fond est super intéressant.
Ça fait saigner les oreilles sinon.
Ah oui, non, mais j'arrive pas. Vraiment, j'avais écouté un podcast où le sujet m'intéressait de ouf. J'ai tenu 5 minutes.
Mon Dieu.
Je peux pas. Je peux pas. Donc moi, j'ai
tellement pas envie que t'ailles écouter mon podcast du coup.
Et c'est comme ça. Mais après, je dis pas que les podcasts sont pas bien. Je dis juste que moi, je ne veux pas les écouter.
Oui, c'est
tout. Donc voilà, je demande des recos. Et là, pour finir, donc un podcast un petit peu pépite, mais aussi faut avoir un peu les oreilles prêtes à se faire un peu bousculer et prêtes à recevoir les choses un peu absurdes. Je vous parlais d'un podcast qui s'appelle le Tapiocast. Le Tapiocast, c'est produit par une personne qui s'appelle Aurélie Rose. Et alors, le Tapiocast, c'est un peu comme un zapping de podcast. Et encore une fois, je reprends un peu sa description parce qu'elle l'a bien fait, tant qu'à faire. C'est donc un montage avec plein d'extraits de podcasts ou d'émissions de radio sous forme de zapping. C'est un peu comme un patchwork sonore, mais avec un montage très stylé, totalement absurde. En fait, elle fait dialoguer des gens qui parlent de sujets qui n'ont rien à voir.
C'est génial.
Il y a quand même à chaque fois un fil rouge, en fait.
Ouais.
Au début, on ne comprend pas trop, mais les épisodes ne font même pas 10 minutes. C'est quand même un énorme boulot, clairement.
Ouais. Ça veut dire que j'imagine qu'elle écoute très grand nombre.
Elle met pas les références, mais elle dit que dans la bio, d'ici jamais je vous ai cité, mais que vous voulez être enlevé, ben envoyez-moi un message. Bref, mais c'est vraiment voilà, elle écoute plein de choses et c'est très drôle. Enfin, moi juste ça me fait rire et comme j'aime bien les podcasts bien montés, et ben j'aime écouter ça. Donc voilà, il y a seulement 8 épisodes. Donc là, voilà, je vous propose un peu des choses différentes.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment là, on est sur de la pépite et tout ça. Effectivement, vous n'avez pas écouté ça dans le métro ou quoi, vous n'allez rien entendre. Mais c'est une pépite qui est moins confidentielle parce qu'il se trouve qu'elle est sélectionnée dans la partie révélation au Paris Podcast Festival de 2023.
Stylé.
Donc je suis trop contente pour elle parce que c'est vraiment en fait c'est une nana avec, qui avait fait un épisode pour mon podcast Multimorphose en fait collaboratif. Donc moi je la connais comme ça, elle m'avait envoyé un message, hop, j'ai vu qu'elle faisait ça. Voilà.
Ouais.
Mais là, j'ai vu qu'elle était en sélection. Je me suis dit, oh, c'est trop bien. Enfin,
c'est cool.
Donc, ouais, pour un truc comme ça, qui effectivement, tu dis, mais qu'est-ce que quoi
ouais.
Mais voilà. Donc, je vous conseille, c'est très sympathique. Je vous propose d'écouter un extrait.
Qu'est-ce qu'on gagne exactement?
Un bout de ma gourde.
Waouh.
Ça vaut trop le coup, quoi.
Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que
quand j'entends ma voix, je suis extrêmement gêné, je la reconnais pas. C'est d'ailleurs ce qui nous arrive quand on entend sa propre voix enregistrée. C'est extrêmement dérangeant.
J'ai l'impression, c'est très bizarre, mais d'être un hippopotame.
Ça vous paraîtra bizarre peut-être. Mais j'aimerais bien que vous trouviez ça cool, en fait, que ce soit bizarre.
Oh my god, c'était malade mental!
C'est un type vraiment curieux,
oléagineux,
bicéphale
et apotropaïque.
C'est quelque chose qu'on fait tous, naturellement. Déduire la personnalité de quelqu'un en fonction de sa voix.
Il faut se méfier des gens qui font des voix de tête en prévenir. Ils ont un projet derrière.
Est-ce que les voix aiguës, c'est pas un peu agaçant?
Non, du tout.
Donc voilà, là, vous avez eu un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner. Et encore une fois, bah, auditeurs, auditrices de LMK, si vous avez des recos de podcasts que vous aimez bien, eh bien, vous, voilà, envoyez-les-moi, ça fera des commentaires que je pourrai lire si vous avez des recos longues et tout ça. Merci.
Trop cool. Merci Fanny pour ton kiff. Franchement, moi, j'ai très envie d'aller... Alors, les trois ont l'air hyper chouettes. Très envie d'aller écouter le premier et le dernier aussi, ça m'intrigue trop et j'adore les zappings à la télé.
Ouais,
j'adorerais, parce que je sais pas si ça existe
si
encore.
Si ça existe, oui, encore, ça existe encore, mais c'est encore plus rare quand même.
Ouais. Et j'adore aussi dans le quotidien, je sais plus comment ça s'appelle, Silence. Oui, c'est une sorte de zapping de juste d'images. Une zapping, un zapping d'images en silence. Et où en fait ça peut être drôle ou pas hein, mais ils mettent les unes à la suite des autres des images qui n'ont aucun lien entre elles et ça crée des situations un peu enfin cocasses.
What the fuck,
j'ai envie de dire, comme on dit, comme tu dis. Ariane, qu'en est-il de ton côté?
Alors, après une mûre réflexion, comme vous le savez, je cherche un appartement, ce qui fait que à l'heure actuelle, en réalisant beaucoup de visites, je passe beaucoup de temps dans les transports. Ce qui est bon, non seulement énergivore, mais aussi chronophage. Et le fait de toujours prendre le métro comme ça, comme j'arrive pas trop à lire en ce moment, je regarde beaucoup mon téléphone. Et ce samedi, sur quoi tombais-je? Sur Twitter.
Sur quoi tombe-je? J'aime bien dire comme ça.
Sur Twitter. Je tombe sur le tweet d'un homme qui a en fait réalisé un site internet qui est en fait un jeu de mémoire. Donc c'est un site qui s'appelle memory.pour.paris. Désolé, c'est un peu centré sur Paris, j'ai cherché, il n'y a pas vraiment d'autres versions qui existent. Et en fait, le but du jeu étant de retrouver toutes les stations de métro ainsi que les rues de Paris de tête. Voilà, vous avez une sorte de petite barre de recherche dans laquelle vous entrez ce dont vous vous souvenez. Et c'est très satisfaisant parce que au-dessus de la carte de Paris, non seulement il y a toutes les petites rues qui s'illuminent en bleu dès que vous en trouvez une, tous les petits points des arrêts de métro qui s'illuminent en bleu, vert, jaune en fonction de la couleur de la ligne dès que vous trouvez le nom d'une station. Mais en plus, vous avez une sorte de petite barre de chargement qui vous dit à quel pourcentage de stations de métro trouvées vous êtes et à quel pourcentage de kilomètres de rue trouvées vous en êtes. Et du coup, j'ai littéralement passé tout le week-end à faire ça. Samedi soir, je me suis couchée à je sais pas quelle heure en me creusant et je me suis dit, je ne tricherai pas. J'y réfléchirai pendant tout le week-end. Et parfois... Au milieu de la journée ou quand je me réveillais et tout, j'avais une station qui me revenait et tout. Et j'ai trouvé ça super, j'ai pas fini. J'en suis à 80,3% des stations de métro trouvées.
Waouh.
Sachant que mon talon d'Achille, c'est clairement les stations en dehors de Paris.
Ah, je crois que c'est pas la 7 bis et la 3 bis, non, ça va?
Alors, la 3 bis, j'ai réussi en entier.
Wow.
La 7 bis, j'ai pas tout, j'avoue, il m'en manque.
Moi, je vis dessus, si tu veux, je pourrais t'aider.
Allez. J'ai dit que je trichais pas, ça devait être dans ma
tête.
Ah,
d'accord, ok.
Et du coup, maintenant, quand je suis dans le métro, je fais un peu attention, je regarde et tout, je me dis, tiens, est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Après, je les garde dans ma tête. Et la règle, c'est, je ne remplis pas la carte quand je suis dans le métro.
Ouais.
Parce que sinon, c'est tricher. Faut que je lise, que je regarde un petit peu le réseau, et après, une fois que je suis chez moi et tout, je peux remplir la carte de tête. Bref,
c'est
moi, les trucs de mémoire, j'adore ça. Quand
Mais
il faut
ouais.
se souvenir de trucs, c'est vraiment ma passion. Et en fait, je me demande quand même si ça existe pas pour d'autres choses qui soient pas uniquement parisiennes, quoi. Type les gares en France,
je sais pas, les arrêts de métro, mais dans d'autres villes.
Les fleuves, les...
Par exemple.
Ça fait penser au jeu qu'il y avait eu, Saut de Canton.
Ça me dit
rien. Vous vous rappelez pas de Saut de Canton ? Alors en plus, je crois que c'est un copain qui l'avait développé. Où en gros, tu devais aller d'un... Alors tu as juste en fait les panneaux des villes. Et tu dois aller d'une ville à une autre en passant par une autre ville.
C'est du génie.
Donc en gros, t'as une ville avec, enfin t'as un panneau, t'en as un au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, et tu dois aller vers une autre ville. Et tu te dis, attends, tu dois aller plutôt vers le, donc, le nord. Enfin, quelle ville tu dois prendre? Ouais. Et à chaque fois, ça devait être, enfin, tu devais faire le moins de trucs possible parce qu'il y a des fois. Et ce qui est drôle, c'est que à la fin, quand t'avais réussi, ils te montraient par où tu étais passé.
Mais c'est génial. Moi, j'adore les trucs de géographie. Je suis nulle, mais j'adore.
Mais parce que du coup, là, je suis dessus avec mon téléphone.
Oui.
J'ai deux questions.
Oui.
Déjà, la première, c'est donc en fait le concept, c'est vraiment retrouver les rues et les stations de métro.
Ouais.
Est-ce que si tu laisses la page ouverte sur ton téléphone, oui, ça recharge ou non, c'est enregistré.
Il faut donc c'est sur Google ou Safari ou Chrome, enfin voilà le navigateur sur lequel vous êtes. Si tu ne fermes pas la page et que tu ne recharges pas la page, ça va sauvegarder, enfin ça va rester sur tes résultats vont être sauvegardés quoi.
Ok.
Mais si tu fermes la page,
si tu fermes la page et que tu y reviens, je sais pas, j'ai pas essayé, je ne voudrais pas risquer de perdre mon avancement.
Ma troisième question, c'est est-ce que t'as vu des erreurs parce que j'ai tapé mon ancienne rue dans le 17e et il m'a mis non.
C'est quoi ?
Rue Viette dans le 17e.
Bah après j'ai remarqué qu'il y a des erreurs, notamment une station de métro qui est mal répertoriée en fait. Bah c'est d'ailleurs dans le 17e, la station Pereire.
Okay.
Et quand tu tapes Pereire, ça t'indique comme si c'était une erreur. Ça te marque juste le boulevard Pereire, mais pas la station de métro parce qu'elle est répertoriée comme Pereire-Levallois, ce qui est une erreur parce que
s'appelle
Pereire tout court.
Pas comme ça, oui.
Elle n'a pas changé de nom, peut-être ?
Non. D'ailleurs, j'ai fait une recherche parce que je me suis dit, c'est bizarre. Je suis sûre que c'est pas très loin de chez moi, en fait. Donc, je savais, voilà. Je me suis dit, c'est bizarre. J'ai fait une recherche Wikipédia pour voir si effectivement elle n'avait pas été renommée et tout. Mais en fait, non, c'est juste une erreur. Et il y a d'autres personnes qui l'ont relevé dans les commentaires du tweet dans lequel j'ai trouvé ce site-là.
Et j'ai vu que dans le à propos, c'était inspiré d'un jeu qui était fait sur San Francisco à la base.
Ah, ok, je savais pas.
Mais j'ai regardé dans le à propos.
Ah, donc, ouais, ça existe peut-être dans d'autres villes.
D'autres villes.
Et
j'ai
vrai,
cherché en France, j'en ai pas trop vu d'autres.
S'il y a des gens qui nous écoutent aussi et qui savent développer ce genre de choses, faites-vous plaisir.
Moi, j'adore les trucs comme ça, c'est
non,
ma
mais
vie.
C'est génial, franchement, ouais. Je suis en train de le faire là depuis que t'as commencé à en parler. Et j'adore, enfin, il y a un côté
c'est
hyper
addictif,
satisfaisant.
Je l'ai envoyé à tous mes potes et elles étaient toutes en mode « Putain, c'est génial, j'arrive plus à m'en passer, là, je suis dessus depuis deux heures ».
La passion des Parisiens, des Parisiennes parlait du métro.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres passions dans la vie ?
Un jour, j'avais eu un date avec une meuf qui m'a parlé du métro pendant deux heures. C'était vraiment sa passion.
Ah ouais ?
Du métro. Tous les trucs, tu sais, anecdotes de stations abandonnées, quand est-ce que les rames ont été changées, quelles stations ont été inaugurées, à quel endroit, parce qu'il y a un peu des trucs comme ça.
C'est génial.
En vrai, c'est passionnant. Hein. Ouais. Je ne suis pas trop penchée sur la question personnellement, même si en vrai, j'aime bien le métro. Sauf quand il est blindé et que ça pue la transpi. Moi, j'aime bien prendre le métro. Et c'est vrai que je comprends qu'on s'y intéresse.
Ouais.
C'est vraiment un truc particulier, quoi.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a un truc. C'est vrai qu'on déteste le métro, et je pense dans plein de villes, hein, en vrai. Mais en même temps, il y a un truc à Paris, autour. Enfin, c'est une institution, ce métro, quoi.
Ouais.
Enfin, vraiment.
Vous savez, anecdote. Alors, je suis née à Paris. J'ai pris le métro pour la première fois à 17 ans.
Quoi ?
Ouais.
Mais pourquoi, comment ?
C'est parce qu'en fait.
Tu vivais en autarcie ?
Je vous ai déjà raconté que ma mère est malvoyante. Et le fait est qu'elle détestait prendre le métro parce qu'elle trouvait que c'était mal indiqué, que c'était trop... Enfin, les panneaux et tout, c'est trop compliqué pour elle. Et du coup, on prenait que le bus. Et donc, en fait, jusqu'à genre mes 17 ans, en plus, j'ai passé une partie de mon lycée à Amiens. Donc, en fait, quand j'étais au lycée, j'étais très peu à Paris, à part le week-end. Et du coup, quand j'étais petite, on prenait tout le temps le bus. Et donc, j'ai pris le métro pour la première fois, ou une des premières fois, parce qu'en vrai, on avait quand même dû le prendre pour aller en sortie scolaire, par exemple. Souvent, on prend le métro, ou trucs comme ça. Mais pour la première fois, vraiment, moi, toute seule et tout, c'était genre à 17 ans.
C'est fou.
Et aussi, bon, mes parents étaient stricts, du coup, ils voulaient pas trop que je sorte loin de mon périmètre. Donc,
ouais. Voilà. Mais après, Paris en bus et globalement n'importe quelle ville de France en bus, moi, je trouve ça beaucoup plus chouette que le métro.
Je suis d'accord.
Parce que, voilà, ça dépend. Parce
oui,
que,
ça
en
dépend.
Vrai, un trajet normalement de 20 minutes, tu peux mettre 1h30.
C'est
parce
clair.
Parce que, surtout à Paris, il y a beaucoup de trafic.
Ouais. Et non, mais c'est aussi que, bon, à Paris, ça va encore, on a de la chance, mais dans la plupart des villes de France, tu attends le métro. Le bus.
Une heure.
Oui.
Ouais,
oui,
beaucoup
oui,
de temps, donc c'est
grave,
le problème.
Grave.
C'est que...
Mais ça a un petit côté visite touristique.
Oui. Je suis d'accord. Quand t'as le temps, c'est bien.
Ouais. Ouais.
Quand t'as pas le temps, moi je prends le
bus. Mais moi le bus, je l'ai beaucoup pris parce qu'il y a quelques années, j'ai eu des béquilles à cause d'un problème au pied pendant quasiment 2 ans.
Ouais.
Et donc je n'ai pris que le bus pendant quasiment 2 ans. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas dans le métro avec mes filles.
Ouais, c'était...
Mais et après, bah, en fait, c'est que ta vie dépendait des bus. Donc, si un bus me disait, bon, bah, l'arrêt définitif est là, et tant pis, je me retrouvais parfois mais perdue au milieu d'un endroit. Je me disais, mais comment je rentre chez moi, en fait ? Mais j'aime bien les bus aussi. Bah, surtout, si vous venez à Paris, voilà. On parle aux gens qui n'habitent pas à Paris. Voilà. Si vous venez à Paris et que vous voulez découvrir un petit peu Paris, prenez le bus 72. J'ai parce un autre, autre code bus. Après. Alors, vas-y. Parce que le bus 72 part de Châtelet et va jusqu'à la Tour Eiffel.
Wow. Okay.
Et donc il longe la Seine. Et moi j'adore parce que ce bus va à Radio France et j'avais bossé un petit peu. Et ce que j'adore en fait ce bus, c'est que les gens le prenaient et donc des touristes. Et quand on arrive au moment de la Tour Eiffel, les touristes qui font genre waouh et tout.
C'est trop mignon, en vrai.
Moi j'étais trop avec eux parce que j'adore voir la Tour Eiffel. Ouais, donc aussi. Vraiment reco de bus si vous voulez découvrir un petit peu Paris sans avoir à payer bah, les bus hyper chers ou quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Vous prenez et Google Maps est votre ami pour trouver les arrêts précis. Ouais. Mais voilà bus 72. Donc toi tu veux recommander quoi d'autre comme bus ?
Moi je souhaiterais recommander le trajet du bus 84,
okay.
Qui a son terminus au Panthéon, vraiment place du Panthéon. Donc, vous pouvez faire déjà une petite balade dans le quartier latin. Ensuite, en allant au Panthéon, vous prenez le bus 84. Et le bus 84 fait, désolé, mais selon moi, le meilleur trajet. En plus, ça va directement chez moi. Bon, voilà. Mais il part du Panthéon, donc déjà, c'est magnifique. Il fait tout le boulevard Saint-Germain.
Ouais.
Il arrive sur les quais, il passe devant l'Assemblée nationale, à côté du Petit Palais, du Grand Palais. Et il passe aussi par la Place de la Concorde pour aller à la Madeleine. Et vraiment, le trajet touristique au max, mais vraiment, je me lassais pas. Parce que quand j'étudiais, j'avais ma bibliothèque juste, enfin, au Panthéon, en fait, juste à côté du Panthéon. Et du coup,
bibliothèque Sainte-Geneviève ?
Sainte-Barbe.
Ah,
personnellement. La Sainte-Geneviève, trop. Non, non.
Il y a trop de gens.
Surcoté, trop de gens, okay. Parce que c'est beau à l'intérieur et tout. Et en fait, le soir, quand j'avais passé une journée à travailler à la bibliothèque, qu'il était genre 18, 19, 20 heures, je me disais, putain, là, je vais prendre mon petit bus 84, là. Du coup, c'est long. Parce que c'est un trajet que je fais en 30 minutes, là, je le faisais bien en 1h10, je dirais.
Oui, parce qu'il y a les bouchons, là, le soir.
Il y a les bouchons, puis en fait, le bus, c'est plus long, quoi. Il s'arrête à toutes les stations.
Oui, c'est le principe,
matins,
oui.
Voilà. C'est effectivement le principe d'un bus. Mais c'est plus long, enfin, l'itinéraire était plus biscornu qu'un trajet en métro, tu vois. Et vraiment, c'était mon kiff. Alors là, si j'avais fait LMK à cette époque, le bus 84, mon kiff ultime.
Ça peut être ton kiff. C'est ton mini-kiff, peut-être.
C'est mon mini-kiff. Voilà. Je me posais avec mon livre tranquille que je voulais finir et tout.
Oh là là.
En plus, une heure, quand t'as une heure devant toi, c'est trop bien. T'as le temps de bien te plonger dans l'histoire sans être arraché au bout de 15 minutes, tu vois. Et vraiment, le bus 84, emprunté uniquement par des vieilles personnes.
Mais oui,
il n'y a personne dans ces bus qui font des trajets. En même temps, c'est dans
mais
des quartiers.
Vous savez que quand je vous écoute, là, je suis rentrée de week-end et j'avais qu'une envie en rentrant de week-end, c'était de quitter cette ville.
Oh.
Parce
ah ouais.
que vraiment, genre parfois, moi, je suis lyonnaise. Et du coup, Paris, j'ai pas grandi à Paris.
Ouais.
J'ai grandi dans une ville grande. Mais c'est pas Paris, c'est différent. C'est plus à taille humaine, Lyon, je trouve. Et parfois, Paris, j'ai rêvé d'habiter à Paris.
Ouais.
Depuis que je suis toute petite, j'ai rêvé d'habiter à Paris. J'ai rêvé d'aller à Saint-Germain-des-Prés.
Ouais.
J'ai rêvé d'habiter à côté du Panthéon.
Et t'as rêvé d'habiter à Levallois.
Non. Non, tellement pas. Tellement pas, non. C'est juste que j'ai eu un mari et un enfant.
Bah oui,
mais en vrai, quand je vous écoute là... Et ben en fait, je trouve que c'est une poésie du bus parisien
et ça me
rappelle pourquoi j'aime cette ville en fait.
Mais il faut avoir
donc
le temps, c'est sûr, hein, parce qu'il y a pas tout le monde qui peut prendre le bus.
C'est sûr.
Si vous avez les LM Cœur, vous qui nous écoutez, des histoires aussi de bus, que ce soit enfin à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs, enfin même
partout.
des cars, hein, parce qu'il y a pas que les bus, il y a des cars aussi. Racontez-les-nous en DM. J'ai une dernière reco de ligne, c'est la ligne 21. Que je prenais quand j'habitais dans le 5e et que je travaillais à Opéra. Et cette ligne, alors je sais pas de où elle part. Elle part de Stade Charletti, donc c'est dans le 14e. C'est pas, enfin il y a rien de particulièrement très joli à voir, enfin voilà. Mais donc après elle remonte jusqu'au Panthéon. Elle descend le boulevard Saint-Michel, elle passe dans le Louvre, enfin dans les Tuileries.
Ah oui.
Entre les Tuileries et le Louvre, donc du coup, enfin. Mais comme ce que tu racontais tout à l'heure, moi j'avais mes petits écouteurs dans mes oreilles et tous les matins je voyais le Louvre, tous les soirs je voyais le Louvre. Et après elle remonte l'avenue de l'Opéra donc avec une vue magnifique sur l'Opéra. Et moi je descendais là et après je crois que le bus va jusqu'à Saint-Lazare, je sais plus. Mais Mais voilà, et mini kiff, j'en profite puisqu'on parle du métro parisien. Avant de venir habiter à Paris, j'ai un livre qui m'a fait aimer le métro et qui m'a fait aimer Paris. Et je pense que peut-être vous le connaissez, ce livre. Zazie dans le métro, de Raymond Queneau. Et qui est aussi un film. Et donc, enfin, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zazie et qui vient à Paris. Et en fait, elle échappe à la vigilance de, je sais plus avec qui elle est, son père
son
peut-être,
oncle,
son
crois.
Oncle, ouais.
Ouais.
Et c'est toute une promenade dans Paris où on suit Zazie. Et c'est un très joli livre, un très joli film aussi. Et c'est voilà, je trouve que c'est une poésie des transports en commun parisiens.
C'est grave d'accord. De toute façon, moi j'adore Paris donc.
Voilà, bon peut-être qu'on vous a saoulé avec Paris. Et si c'est le cas, vraiment sincèrement désolé. Mais encore une fois, je suis sûre que vous avez des jolies histoires avec des bus, avec des cars, avec des métros. Enfin, il y a plein de jolies histoires, quelle que soit la ville, quel que soit le mode de transport.
Ouais, de ouf.
Ouais, juste pour finir, il y a un bus à Dijon qui va de la gare à l'université en passant par la prison. Et ça me fait juste beaucoup rire.
Super,
oh, sympa.
Voilà.
Les étapes bien. De la vie.
Oui.
La prison, pas trop, mais...
Ouais, bah justement, c'est pour ça que je dis ça.
Les étapes de la
blague.
Vie. On sait que t'as eu un passé
de c'est le Monopoly, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff ?
Eh ben, écoutez, moi, mon kiff, je crois que j'en ai jamais parlé. J'ai dû en parler à la rédac à quelques personnes, mais mon kiff, ces derniers temps, c'est re-regarder des films que j'ai vus il y a très longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est très intéressant de voir tout comme on pourrait relire un livre avec un regard de la personne qu'on est aujourd'hui, par exemple un livre qu'on a lu enfant en le relisant adulte, etc. Ce kiff est né un peu au hasard il y a deux semaines en regardant la télé. En fait, je regarde pas trop la télé, j'avoue, mais quand j'ai envie de regarder un film ou une série, avant d'aller sur une plateforme où je sais que je vais mettre littéralement 30 minutes à trouver quelque chose à regarder et en fait je vais m'endormir au bout de 10 minutes après, et ben je zappe quand même à la télé pour voir s'il n'y a pas un film chouette. Et la dernière fois, complètement par hasard, je suis tombée, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur 4 mariages et un enterrement.
Oh waouh.
Est-ce que vous avez vu ce film ?
Je connais l'histoire, mais j'ai pas vu, je crois.
Ouais. Bah moi, c'est l'inverse. J'ai vu, mais j'ai tout oublié, donc ça fait grave longtemps.
Eh ben, super intéressant.
Je t'ai dit que je l'avais vu parce que dans ma période adolescente du collège, j'ai été amoureuse de Hugh Grant.
Bien sûr.
Donc, j'ai vu bon Hugh Grant, mais j'ai aucun souvenir. Je me souviens. Ouais.
Je crois qu'il y a 4 mariages et un enterrement. Enfin.
Non.
Spoiler énorme quand même. Mais du coup, peut-être que tu sais déjà ce dont je vais parler, Ariane. Mais en gros, donc moi, j'avais vu 4 mariages et un enterrement il y a longtemps, quand j'étais plutôt jeune. J'ai dû le voir une fois petite. Enfin, c'est un film qui date des années 90. Donc voilà, moi, je suis née au début des années 90, donc j'étais petite. Et j'ai dû le revoir une fois pré-ado. Et je l'ai revu donc il y a 2 semaines. Et en fait, c'est dingue parce qu'en le revoyant, je me suis dit « Mais putain, mais j'avais rien compris à ce film.
» C'est trop drôle.
Mais ouais, et vraiment, genre, j'ai eu une révélation. Alors, il va y avoir des spoilers. Attention, si vous n'avez pas vu ce film, et ben peut-être avancez vite. Enfin, et que vous avez envie de le voir, en tout cas. Peut-être avancez vite. Et on se retrouve après.
Après, c'est sorti dans les années 90. Est-ce qu'on peut vraiment parler de spoil à ce niveau-là ?
Attention, il y a des personnes dans cette rédaction qui n'ont pas vu.
Oui, je
ce
sais,
film.
Je
et
sais.
Et d'ailleurs, c'est génial. C'est d'autant plus génial que j'ai vraiment très envie que ces personnes les voient. Parce que les voir avec un œil aujourd'hui de 2023 pour la première fois, c'est juste génial. C'est tu vois, c'est comme un livre que t'as lu il y a 15 ans et que t'aimerais relire sans l'avoir déjà lu. Enfin, c'est ce genre de sensation que, bref, je ne pourrais pas revivre. Mais donc, je regarde 4 mariages et un enterrement. Et donc, pour refaire un petit peu le pitch, 4 mariages et un enterrement, donc c'est Hugh Grant qui est un jeune trentenaire dans un groupe d'amis. Donc, on voit que vraiment sa vie est centrée autour de son groupe d'amis très soudé. Et ce groupe d'amis, du coup, la petite trentaine enchaîne les mariages d'amis, donc on voit que voilà les couples se marient et Hugh Grant est un peu le dernier célibataire et dans un de ces mariages il rencontre une femme, je sais plus comment elle s'appelle, Mais bref, il rencontre une femme et puis il crush, voilà, il flirte, tout ça. Et en fait, il se recroise à plusieurs reprises à différents mariages. Mais à chaque fois, il y a un mauvais timing. Enfin, soit lui, il est célibataire, mais elle, plus. Soit lui, il est plus célibataire, mais elle, oui. Enfin, en gros, c'est jamais le bon timing. Et donc, finalement, il y a effectivement 4 mariages. Il y a un enterrement qui est l'enterrement d'une personne de leur groupe d'amis. Et puis, au bout d'un moment, Hugh Grant se dit « Bon, ben, vu que je suis le dernier célibataire, je vais retourner voir mon ex et je vais la demander en mariage. » Donc, en gros, on ne voit pas ce moment-là. On voit juste 1 an ou 10 mois plus tard Hugh Grant qui se prépare le matin de son mariage et on se demande avec qui il va se marier, etc. Et donc, finalement, on voit qu'il est sur le point de se marier avec son ex, qui est un peu la caricature de la nana, quoi. Qui est vraiment un sup. Et à ce mariage est invitée, bien évidemment, cette jeune femme sur qui il avait crushé. Et elle arrive toute seule. Et il lui dit, mais enfin, tu es toute seule et tout. Elle lui dit, oui, je me suis séparée de mon mec. Donc là aussi, un peu grosse caricature, c'était un mec beaucoup plus âgé qu'elle, avec énormément d'argent, énormément de pouvoir. Et bref, elle dit, ça l'a pas fait. Peut-être que la prochaine fois, je me marierai avec un. Enfin, je me mettrai avec quelqu'un de mon âge. Enfin, quelqu'un qui a pas le triple de mon âge. Et là, Hugh Grant se dit, merde, putain, mais c'est vraiment le mauvais timing. Je suis sur le point de me marier. Et en fait, il y a la meuf que j'aime qui est là dans l'église, quoi. Donc il y a une scène. Il y a une scène où il retrouve un de ses témoins dans une arrière-salle de l'église où il lui dit « putain, je sais pas quoi faire ». Et c'est un de ses témoins, je spoil grave, qui est sourd. Donc du coup, il parle avec des signes et il lui dit, donc son ami sourd lui dit « bah écoute, c'est simple, il y a 2 solutions. Soit t'y vas, tu te maries, soit j'ai pas d'autre solution pour toi ». Et donc Hugh Grant y va. Là, le prêtre dit « Voulez-vous épouser machin ?» La fille dit « Oui ». Puis lui, il dit « Voulez-vous épouser ?» Il dit « Oui ». Et il dit « Bon, alors, sauf si quelqu'un... » Donc, le classique dans les films romantiques, si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Ouais. Voilà. Et là, donc, le pote sourd toque.
Sound
bruitage
design.
Incroyable.
Tu pourras l'enlever si tu veux.
Ah non, je le garde. On le garde.
Je me suis sentie pousser des ailes là, vraiment. Le bruitage de podcast. Appelez-moi quand vous voulez. Bref, et donc il se retourne. Au début, on ne sait pas trop d'où vient ce bruit, et puis on pense que c'est peut-être quelqu'un qui tape à la porte de l'église, et en fait, on se rend compte que c'est l'ami sourd, et il commence à lui parler en signe, donc c'est sous-titré, il n'y a que Hugh Grant qui comprend au début, et il lui dit « j'ai trouvé une troisième solution ». Là, Hugh Grant parle, parce que tout le monde lui dit « mais qu'est-ce qu'il dit ?» Hugh Grant parle, il dit « j'ai trouvé une troisième solution, moi je crois que le marié a d'énormes doutes et qu'il en aime une autre ».
J'avoue, dans le film.
Oh my J'avoue God. Pour arriver à la fin de mon kiff, je vous raconte tout le détail du film. Et donc là, évidemment, la nana regarde et lui dit oh, c'est vrai. Et Hugh Grant, avec sa tête de Hugh Grant,
de potichien,
voilà, la bouche ouverte comme ça en disant, en ne répondant pas, donc elle comprend que oui, il en aime une autre. Elle lui fout un coup de poing dans la figure. Il tombe dans les pommes.
Ce qui est mérité. Oh, wow.
Oui. Complètement, clairement.
Même si on n'est pas pour la violence, mais quand même. Oui. Hein. Ça coûte cher un mariage.
Voilà.
Déjà.
Et puis, bref, finalement, donc il se réveille, il est dans sa maison avec ses amis, on comprend que le mariage n'a pas eu lieu, et là, quelqu'un toque à la porte. C'est l'autre nana, donc celle qu'il aime, qui vient, et puis après, happy ending, c'est-à-dire qu'ils s'embrassent sous la pluie. Voilà, évidemment. Hein. ils s'embrassent sous la pluie, donc il lui dit qu'il l'aime. Et il lui dit « Acceptes-tu de ne pas m'épouser ? Acceptes-tu de ne pas te marier avec moi ? Et cela pour toute la vie ?» Elle lui répond « Oui ». Et en fait, le film se finit comme ça. Et il se finit après par des photos de couples de leur cercle d'amis qui se marient. Et puis à la fin, c'est une photo de eux deux, elle qui est enceinte, et puis après, eux deux qui ont un enfant. Et en fait, pendant des années et des années et des années et des années, j'avais interprété cette fin comme « Oh, mais ils se marient et ils ont plein d'enfants et c'est génial !» Mais pas du tout, en fait. C'est une putain de critique du mariage, ouais. En fait, ce film, parce qu'à la fin, il ne se marie pas du tout. Et ce que ça sous-entend, c'est mais en fait, c'est ridicule d'avoir voulu se marier pour les conventions sociales, etc., avec quelqu'un qui, au final, qui l'aimait même pas. Elle s'est mariée avec quelqu'un avec qui elle est restée 6 mois, elle a divorcé. Donc non, en fait, ne nous marions pas et juste aimons-nous à la façon dont on a envie de s'aimer. Et...
Tu veux faire passer un message, Marie-Stéphanie?
Non. pas du tout. Parce que alors moi, j'ai complètement... je me suis mariée, donc...
Oui, non, mais c'est ça, moi.
Mais non, pas du tout. Mais en fait, j'ai vraiment eu une espèce de déclic où je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai demandé autour de moi, et notamment à la rédac, à des filles qui ont vu le film, et je leur ai posé la question, comment avez-vous interprété la fin de ce film? Et elles m'ont toutes dit... Bah, ils se marient et ils sont heureux. Mais non, en fait, pas du tout. Et je pense qu'on était complètement passé à côté de ça. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un film romantique, parce que ça parle de mariage, parce qu'il est vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et bref, tout ça m'a donné envie de re-regarder à nouveau des films comme Quatre mariages et un enterrement que j'ai vu il y a fort longtemps avec mon œil de la personne que je suis aujourd'hui.
Et pour vérifier que tu les comprends bien.
Et pour vérifier que je les comprends bien, évidemment, parce que voilà. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait je pense qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas à avoir pensé des choses de films qu'on a vus à une période donnée de nos vies et on est nombreux et nombreuses à pouvoir les voir autrement aujourd'hui. Et je trouve ça génial, je trouve ça casse évidemment un petit peu ce côté film d'enfance, voilà, mais en même temps c'est hyper intéressant parce que là typiquement pour ce film je me suis dit ah ben en fait c'est pas totalement un cliché.
Moi, ça me fait ça avec les dessins animés. Quand je revois des dessins animés que je regardais quand j'étais petite, vraiment, je le regarde, je me dis, mais je n'avais rien compris. Mais alors, j'étais loin d'imaginer la vérité de l'histoire.
Genre les Total Spies ou...
Non, plutôt des Disney, je dirais, ce genre d'accord. de choses, tu vois.
Ah, des films, ouais, des films.
Que... Disney, Pixar, voilà. Mais c'est surtout, alors, au-delà du fait que généralement, je me rends compte que je n'avais rien compris, ce qui est, je trouve, génial dans les films d'animation Disney, Pixar et autres d'ailleurs, c'est toujours les doubles niveaux de compréhension. C'est vraiment génial de revoir un truc que t'as vu quand t'étais petite, que t'as compris, bon, on va dire moyennement, mais quand tu le revois avec tes yeux d'adulte, tu te dis, ouais, mais il y a plein de blagues qui sont destinées aux adultes.
Ouais,
c'est ça,
pour les parents et les enfants.
Grave. Moi, je trouve que c'est du génie. Vraiment, c'est trop bien. J'adore les dessins animés.
Non, mais c'est clair. Enfin, t'as complètement raison. Et c'est exactement pour ce genre de petit kiff que c'est mon kiff aujourd'hui, tu vois.
Parce qu'en vrai, tu disais, t'aimerais regarder des films et les voir comme si tu les voyais pour la première fois. Mais moi, je trouve que c'est un peu ce que ça fait quand tu redécouvres des choses que t'as pas vues depuis tellement longtemps et que tu pensais avoir comprises de telle ou telle façon. Et que, en fait, quand tu t'y reconfrontes, tu te rends compte que, avec tout ce que t'as, enfin, toutes les, avec je sais pas, ton âge, toutes les nouvelles idées que tu as, le nouveau regard que tu portes sur tout. Je trouve que c'est en quelque sorte comme une redécouverte de ce que tu pensais connaître, en fait.
Grave, non mais t'as raison. Avec ce petit goût de Madeleine de Proust en plus quand même, parce qu'il y a des... Enfin, c'est identifié à une période de ta vie et tout. Et tu vois, ça me fait penser à autre chose parce que j'ai regardé Bridget Jones il n'y a pas très longtemps.
Ah, ça par contre.
J'étais dans
ça a mal
vieilli,
non?
Ah, ça a très mal vieilli.
Et ben, en fait, oui. Et surtout, c'est typiquement l'exemple de film qu'on ne regarde pas du tout avec les mêmes yeux. Et j'avais vu un mème sur Instagram avec une photo de Renée Zellweger dans Bridget Jones. Et il y avait écrit, je ne sais plus exactement, mais il y avait écrit et c'est cette femme-là, enfin ce corps de femme-là, dont on a essayé de nous faire croire qu'il était anormal et gros à l'époque. Et c'est vrai que quand tu regardes la série... c'est juste abusé, quoi.
Mais c'est abusé, c'est horrible.
Alors que, en fait, la meuf était juste hyper bien foutue, quoi.
Ouais.
Enfin.
La...
Et dans des normes parfaitement
normales. Si vous
normales,
voyez
quoi.
Pas, la go doit faire un 38 maximum.
Oui, c'est ça. Et dans le film, si vous l'avez pas vu, bah vraiment, c'est genre la grosse, quoi.
Enfin, ouais, c'est vraiment la grosse complexée de ouf. Ouais. Elle sait pas quoi faire de son corps. Elle essaye de se cacher.
Et tout le monde autour d'elle, en fait, la complexe sur son corps aussi.
En plus, y a rien qui va. Tout le monde a son avis à donner sur son corps. Elle, enfin, vraiment, c'est... tout le monde essaie de la caser aussi, ouais. En permanence sur tous ses parents pendant tout le film, parce que elle trouve pas de mari parce qu'elle est grosse. Enfin vraiment, ouais. Moi je l'ai revu. En vrai, je le vois souvent parce que avec ma mère, c'est un peu un film de Noël qu'on regarde quasiment tous les ans. Et c'est vrai que là, les dernières années où je l'ai vu, je me suis dit putain quand même, c'est chaud quoi d'avoir grandi avec une représentation ouais. pareille.
Même si il vieillit pas sur certaines vannes, mais pas sur pas sur ce qui est du rapport au corps ou au célibat. C'est plus des situations, tu vois. Moi, c'est des situations qui me font marrer dans ce film. Mais le propos
genre la soupe
en lui-même,
bleue, par exemple, c'est hilarant.
Genre la soupe bleue.
La soupe bleue, voilà.
Ou moi, ma scène préférée qui me fait mourir de rire, c'est quand Marc Darcy lui dit « Ce n'est pas ton manteau, Bridget. » Tu vois ?
Je me souviens pas.
Genre, il s'engueule, elle part, elle met son manteau, il la rattrape, là, elle se retourne en se disant « Oh mon Dieu, il me rattrape. » Et il lui dit juste « Ce n'est pas ton manteau, Bridget. »
Ah merde, je m'en souviens pas, pour le coup.
Bref, il y a un comique des situations comme ça qui est hyper fort dans cette série, qui fait qu'on peut toujours la regarder dans cette série, dans ce film, ces films. Et c'est drôle, mais c'est clair que le fond du propos, aujourd'hui, il n'est plus du tout entendable.
C'est une cata la façon dont elle, dont elle est approchée par Hugh Grant dans le film. Enfin, elle se fait clairement harceler sexuellement au travail.
Mais grave,
enfin, c'est horrible, quoi.
Ouais.
Donc, il y a des trucs, c'est. Ouais. Enfin, franchement, il y avait des scènes, notamment les scènes où elle est au bureau, justement, avec Hugh Grant. Enfin, moi, je trouve que c'est insoutenable. Hein, quand il lui envoie des mails, qu'il commente tout ce qu'elle porte et tout, c'est horrible, franchement.
Ouais,
ouais,
c'est clair. Voilà, on vous a spoilé plein de films. Non, mais en vrai, intéressant aussi. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous avez des films que vous aimiez bien, que vous vous perceviez différemment hier par rapport à aujourd'hui. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous partagez aussi notre avis sur Bridget Jones. Je pense que oui, j'espère.
Ouais, j'espère aussi.
Si vous nous écoutez, normalement, c'est que c'est le cas. Eh bien, c'est la fin de cet épisode.
Oui.
La boucle est bouclée, comme on dit. Et c'était encore un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Plaisir partagé.
Super épisode. Moi, j'ai adoré.
Ouais,
surtout que je l'ai écouté encore 4 fois pour monter. Donc, heureusement que je l'ai bien aimé, en fait.
Envoyez plein de love à Fanny qui va monter cet épisode.
Oh, ça va.
Peut-être que la quatrième écoute, tu vas redécouvrir d'un nouvel œil à l'MK l'épisode. Et puis, tu vas te dire, putain, la première écoute, j'avais rien compris de ce qu'on s'était dit.
On a hâte d'avoir ton retour dans le prochain épisode.
Oui, voilà, je vais en parler.
Pour que tu nous dises ce qu'il en est. Et merci à vous, les LMKers, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. À très vite.
Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.